RFI, 10h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Sébastien Duhamel.
Et 8h30 également à Conakry où nous ouvrirons ce journal avec des réactions nombreuses après la libération de Moussa Dadis Camara. Mansour Faye, le beau-frère de l'ex-président Macky Sall qui obtient gain de cause devant la justice sénégalaise, il est autorisé finalement à voyager librement. Le Front Populaire Ivoirien, le parti de Pascal Affine-Guessant qui dénonce les listes électorales ivoiriennes, il réclame un audit indépendant. Et puis cette révélation du média Jeune Afrique au Sahel, c'est une entreprise française qui fabrique encore les passeports maliens. Moins d'un an après sa condamnation pour crime contre l'humanité en Guinée, Moussa Dadis Camara est donc sorti de prison immédiatement après la grâce accordée par le général Mamadi Doumbouya, l'ex-chef de junte qui avait ordonné en 2009 le massacre d'au moins 156 opposants dans un stade de Conakry. Sa libération fait naturellement réagir, à commencer par l'entourage de Moussa Dadis Camara qui se félicite. Depuis vendredi soir, en effet, le domicile familial à Lambani, en banlieue de Conakry, est en fête. Reportage Tanguy Billon.
Au sein de la grande cour familiale, sous un chapiteau spécialement dressé pour l'occasion, de jeunes hommes en tenue traditionnelle de la Guinée forestière dansent à côté d'un groupe de femmes au son d'une chanson écrite à la gloire de Moussa Dadis Camara. Ce dernier est cependant absent, sont réunies une trentaine de personnes, des membres de sa famille, dont Joachim, son demi-frère. Il a pu voir Dadis vendredi soir après sa libération, avec une grande émotion.
C'était de la joie, le mot nous manque. Moi-même, quand je l'ai vu, j'ai dit que j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai dit, voici que Dieu a fait quelque chose de miracle devant moi, à mon vivant. Quand on l'a vu hier nuit, c'est bon, c'est très bien, bon, il est malade, mais grâce à Dieu, ça peut aller.
Déborah, une nièce de Dadis, tient à rendre hommage au bienfaiteur de son oncle.
Nous tenons à remercier le président, l'excellence Mamadi Doumbouya. La libération de Moussa Dadis a été faite par son accord. Vraiment, merci à son gouvernement. Sa libération est vraiment une grâce pour nous, une très grande grâce.
Un bœuf débarqué du coffre d'une voiture est sacrifié pour l'occasion. Il est partagé entre tous les membres de la famille en l'honneur de leurs parents désormais libres. Tanguy Billon, Conakry, RFI.
Et le son de cloche est radicalement différent en revanche pour tous ceux en Guinée qui se sont battus d'arrache-pied pour que justice soit rendue après le massacre de 2009. Les victimes ou leurs proches sont les premiers concernés bien sûr, et pour eux, cette grâce accordée à Moussa Dadis Camara est un vrai choc inattendu. À l'image de Mamadou Bailoba, président de l'association des familles des disparus, il a lui-même un fils porté disparu. Écoutez sa réaction.
Ça a été quand même une annonce surprise. Nous estimons aujourd'hui que le décret de grâce du capitaine Moussa Dadis Camara est un affront vis-à-vis de la mémoire des victimes du 28 septembre 2009. On s'interroge pourquoi cette grâce présidentielle, ça a été vraiment une annonce surprise. Nous aurions souhaité que ceux-là qui sont incriminés, qui sont coupables dans cette affaire, vraiment arrivent à purger leur peine. Nous attendons à ce que le gouvernement puisse vraiment nous aider à bénéficier ces réparations. Et par après, on va voir qu'est-ce qu'il faut à travers nos avocats. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'explorer autres juridictions nationales ou internationales pour que nous puissions vraiment, disons, prendre position par rapport à cette grâce présidentielle.
La réaction de Mamadou Bailoba en Guinée. Après avoir annoncé la reprise totale de Khartoum cette semaine au Soudan, le général Al-Bourhan, à la tête de l'armée régulière, affirmait hier que la guerre face aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti ne s'arrêterait que lorsque ces derniers baisseraient les armes, les FSR, qui affirmaient eux aussi cette semaine qu'ils ne se rendront pas. Au Soudan du Sud, les appels à la paix se multiplient après l'arrestation cette semaine du vice-président Riek Machar par les forces de sécurité du président Salva Kiir. Dernier appel en date hier, dans la voix du cardinal Stéphane Ameyou. Il s'est exprimé au nom de la conférence des évêques du Soudan et du Soudan du Sud, en rappelant les mots du pape François lors de sa visite à Djouba en février 2023, lorsque le souverain pontife avait imploré les leaders du pays à mettre un terme au conflit et à faire la paix. La lutte contre la résurgence du groupe État islamique en Somalie, avec de nouvelles frappes américaines menées dans la région semi-autonome du Puntland, annonce de l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, qui affirme avoir tué de multiples combattants.
Dakar, 92 FM.
Un revers pour les autorités du Sénégal. La justice donne en effet raison au beau-frère de l'ancien président Macky Sall, Mansour Faye, qui avait été empêché de sortir du territoire sénégalais à deux reprises et qui avait donc saisi le juge des référés à la chambre administrative de la Cour suprême. Et vendredi, ce juge a finalement donné injonction au ministère de l'Intérieur de le laisser voyager librement. Les précisions de Juliette Dubois.
Mansour Faye, ancien ministre et maire de Saint-Louis, a été empêché à deux reprises de quitter le Sénégal. Le 10 mars, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Djeddah, il a été informé de l'existence d'une interdiction de voyage émise par une autorité supérieure, je cite, sans plus de précision. Quelques jours plus tard, il a de nouveau été empêché d'embarquer pour Abidjan malgré l'obtention de sa carte d'embarquement. Mansour Faye et ses proches ont dénoncé une entrave à sa liberté de mouvement et l'homme politique a saisi la justice pour contester ces interdictions qu'il considère comme arbitraires et injustifiées. Le beau-frère de Macky Sall dénonce un acharnement politique depuis plusieurs mois. Selon son avocat, Maître Sall, il ne fait l'objet d'aucune poursuite. L'avocat prend donc acte de la décision en sa faveur, estimant que la justice a fait son travail et qu'il avait le droit avec lui. Mais selon la presse sénégalaise, l'État a déjà introduit un recours pour contester la décision du juge des libertés. D'autres proches de l'ancien président Macky Sall se sentent persécutés par les nouvelles autorités qui ont lancé une reddition des comptes de l'ancien régime. Des responsables comme Farban Gom ou Moustapha Diop ont vu leur immunité parlementaire levée. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
En Côte d'Ivoire à présent, le débat qui se poursuit autour de la liste électorale, une semaine après l'ouverture de la phase de contentieux, le Front populaire ivoirien, le FPI, dénonce des irrégularités. En conférence de presse hier, le parti dirigé par Pascal Affine-Guessant a exigé un audit indépendant, estimant que les anomalies relevées compromettent la transparence de la présidentielle à venir en octobre. À Abidjan, Abdoulaziz Diallo.
Selon l'analyse menée par le FPI, plus de 6 millions d'électeurs, soit 70% des inscrits, ne disposeraient pas de toutes les informations requises sur leur identité, en violation de l'article 7 du Code électoral. Une situation qui, selon Apollos Danté, jette le doute sur la crédibilité du processus. Le vice-président chargé de l'économie internationale pointe également des cas de doublons estimés à plus de 223 000, ainsi que des situations jugées irrationnelles, comme des parents enregistrés avec un nombre anormalement élevé d'enfants. Le parti de Pascal Affine-Guessant estime que ces irrégularités compromettent la transparence de l'élection et réclame un audit indépendant du fichier électoral.
On ne peut pas aller à l'élection présidentielle avec cette liste sans rien faire. C'est vraiment un ingrédient pour faire une élection bâclée qui ne sera pas transparente ni démocratique. Alors, la conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut un audit indépendant.
Du côté de la commission électorale indépendante, on rejette ces accusations. Une source proche de l'institution affirme, je cite, « Nous sommes dans la phase de contentieux. C'est le moment d'apporter des preuves montrant que ces personnes ne méritent pas d'être sur la liste électorale. » À la date du 26 mars, la CEI avait déjà enregistré plus de 2400 réclamations portant principalement sur des radiations, omissions ou corrections d'informations. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Les premiers meetings, les premiers rendez-vous hier au Gabon, où la campagne électorale a officiellement débuté en amont de la présidentielle qui refermera la transition, scrutin prévu le 12 avril. 8 candidats en lice pour de nombreuses candidatures qui avaient été rejetées, rappelons-le. Un partenariat qui a de quoi surprendre au Sahel, alors que les nouveaux passeports de l'AES, qui regroupent le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont été mis en circulation le 29 janvier dernier. Eh bien, le média Jeune Afrique a révélé que c'est une entreprise française, Idemia, qui fabrique en fait les passeports maliens. Les autorités de transition prônent pourtant constamment la rupture avec les structures françaises au nom de la souveraineté. Et surtout, ces dernières années, David Bachet, les autorités maliennes avaient publiquement fustigé Idemia.
L'entreprise française Idemia, qui était chargée de collecter les données de recensement administratif RAVEC, avait été accusée de prendre en otage ces données. Ce qui avait officiellement justifié, en septembre 2023, le report des élections prévues en février 2024. Plus d'un an après, et malgré la récupération de ces données, aucune nouvelle date n'a été fixée. L'année précédente, la justice du Mali de transition avait convoqué Jean-Yves Le Drian, ancien ministre français de la Défense puis des Affaires étrangères, et son fils Thomas, employé par Idemia, alors dénommé Oberture, pour des accusations d'atteinte aux biens publics. Les deux hommes ne s'étaient pas présentés. Malgré ces différends fortement médiatisés et qui avaient alimenté les accusations d'ingérence portées contre la France, Bamako n'a pas rompu le contrat conclu en 2015 avec Idemia pour la fabrication des passeports maliens. Olivier Charlane, porte-parole d'Idemia.
Les passeports maliens sont produits dans l'une des usines sécurisées du groupe, située donc au sein de l'Union européenne. Nous avons livré environ 25 000 passeports depuis le basculement fin janvier sous le nouveau design de l'AES. La production à venir dépend du besoin, dépend des demandes. Habituellement, nous livrons entre 12 000 et 16 000 passeports par mois environ.
L'entreprise française précise que le contrat en vigueur court jusque fin 2025 et qu'une éventuelle reconduction n'est pas envisagée à ce stade. Sollicité par RFI, le ministère malien des Affaires étrangères n'a pas commenté.
David Bachet pour refermer notre journal. 10h40 à Paris. Vous retrouvez bien sûr la suite de vos programmes sur RFI.